conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Genard le 13 avril 1989.
C'est le noviciat en préparation des vœux sous la lumière de la sagesse de la croix. Vous nous parlez de la sagesse de la croix, mais quelle est la façon particulière à Saint Jean de vivre de la sagesse de la croix? Comment un novice de la communauté Saint-Jean doit-il vivre la sagesse de la croix? En vivant de la paternité de Saint-Jean. Ah, vous voyez bien, ça c'est très lumineux. Quelle est la manière propre dont Saint-Jean a vécu le mystère de la croix? C'est qu'il est le seul avoir été témoin. Donc il y a chez lui ce réalisme de l'incarnation poussé jusqu'au bout. Saint Paul l'a vécu de façon beaucoup plus mystique. Ça veut dire que Saint Jean a été moins loin que lui, mystique intérieurement. Jean l'a vécu intérieurement et aussi dans sa sensibilité. Ce que Jean a vécu seul, dans sa sensibilité, dans tout son être. Il était seul à le vivre. Mais Saint Paul a vécu la sagesse de la croix. Ce sont les deux qui parle de la sagesse de la croix. Et il ne faut jamais opposer, il faut plutôt voir le complément. Saint Paul a vécu de la sagesse de la croix par cette extase intérieure et très forte qu'il a vécu. C'est bien au plus intime de son âme, mais ce n'est pas dans sa sensibilité. Je sais bien, quand on vit une grâce mystique d'une façon très très forte, il y a une redondance sensible, mais c'est une redondance, ce n'est pas direct, ce n'est pas immédiate, et ça a éclairé tout Saint Paul, c'est entièrement celui qui a vécu de la sagesse de la croix glorieuse dans la gloire. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est la croix dans le mystère de la persécution de l'Église. Et Saul était comme un des bourreaux. Jean l'a vécu d'une façon très intérieure. Lequel l'a vécu d'une façon plus intérieure, Dieu seul sait. Je crois que c'est Jean. Et il l'a vécu aussi dans toute sa sensibilité. Présent à la croix du Christ, c'est quand même un privilège unique parmi les hommes. Il est le seul apôtre qui a vécu cela. Peut-être d'autres disciples du Christ, on ne le mentionne pas. On ne le dit pas. Pour nous, c'est le seul qui est témoin de la sagesse de la croix dans tout son être, dans toute sa sensibilité. Il est auprès de Jésus à la croix par fidélité à Jésus. Et par fidélité à Jésus, il va vivre cette séparation terrible de la sagesse de la croix. Parce que au-delà de la souffrance, il y a la séparation, la mort. La sagesse de la croix assume la mort. Et la mort, c'est la séparation sensible. Séparation de l'âme et du corps. C'est le monde physique, le monde visible, qui meurt, qui disparaît, pour qu'il n'y ait plus que l'union spirituelle. C'est l'offrande de la présence physique en vue d'une présence purement intérieure et divine. C'est ça que Jean a vécu. Il a vécu dans toute son acuité de disciple bien-aimé et qui reste lié à Jésus spirituellement et acceptant de mourir à lui-même avec Jésus. Jean a vécu ce mystère de la croix en recevant Marie qui vivait ce mystère de la compassion. Marie l'aide à le vivre et Marie lui permet de le vivre plus. Donc le mystère de la sagesse de la croix pour Saint Jean, c'est le vivre dans l'unité avec Marie. C'est le vivre à la manière de Marie, puisque Marie lui est donnée comme mère. C'est que si on veut vivre la sagesse de la croix, on sait que nous sommes tous des novices, des enfants. Et on ne peut vivre de la sagesse de la croix qu'avec Marie. Voilà le mode joannique. La manière joannique de vivre du mystère de la croix. Dans tout le réalisme du mystère de Marie. Mystère avant tout intérieur, mais mystère aussi vécu de manière toute sensible, toute divine, toute aimante. Je crois que ça, c'est très important de bien saisir ce réalisme du mystère de la compassion pour Saint Jean, vivant du mystère de la croix. C'est par le mystère de la compassion que Jean entre à fond dans le mystère de la croix. Et pour nous, vivre le mystère de la sagesse de la croix à la manière de Saint Jean, c'est entrer à fond dans ce mystère de la compassion. C'est vivre pleinement de ce mystère de la compassion. C'est vivre jusqu'au bout ce mystère de la compassion. Parce que ça, c'est capital. De vivre ça de cette manière-là, c'est-à-dire en comprenant que Marie nous est donnée pour que nous vivions plus, que nous allions plus loin dans ce mystère de la croix. Et que nous le vivions le plus possible par Marie et grâce à elle. Je crois que c'est cela qui caractérise la sagesse de la croix chez Saint Jean. Vous voyez, c'est une question d'intensité. Puisque personne n'a vécu le mystère de la sagesse de la croix autant que Marie. Peut vraiment vivre le mystère de la croix pour nous de la manière la plus forte qui soit que par Marie. Elle nous est donnée pour cela. Elle nous est donnée quand elle vit le mystère de la croix. Et elle nous est donnée pour que nous vivions le mystère de la croix. Pour que le mystère de la compassion de la croix soit vécu de la manière la plus absolue qui soit. La plus plénière qui soit. On vit par le mystère de la compassion, cette médiation d'amour de Marie. Vous voyez, la médiation de Marie connaît son sommet par dans le mystère de la compassion. C'est quand elle nous communique son mystère de compassion et qu'elle nous fait vivre le mystère de la sagesse de la croix. Vous voyez que pour chacun d'entre nous, c'est facile à comprendre comment nous devons vivre ce mystère. Si on le vit par Marie, c'est-à-dire si on reçoit le mystère de Marie dans sa compassion, alors par elle, nous pouvons pénétrer le plus avant du mystère de la sagesse de la croix. Or, je vous l'ai déjà dit, Marie vit le mystère de la compassion, l'agonie, la croix, le sépulcre. Les trois moments du mystère de compassion. Mais écoutez, je ne sais pas ce qui se passe là dans le fond. Je ne vois pas pourquoi vous vous passez tout le temps des petits papiers. J'aime pas beaucoup ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit. Je crois que quand on parle du mystère de la croix et de la compassion, on doit en vivre directement. Et on ne doit pas le vivre par des petits papiers qu'on se communique. C'est vrai, je crois que le noviciat doit être vécu que dans un cours, on donne des explications théologiques et philosophiques très bien, mais il n'y a pas d'explication à donner au point de vue spirituel. Ça prouve qu'on le vit mal. Alors on doit entrer dans le mystère. On entre dans le mystère par la foi, l'espérance et l'amour. Et on doit le vivre comme ça. Ceux qui sont intéressés le savent bien. Les autres, ils écoutent et ils vivent le mystère de la compassion. Et c'est très bien. Alors, pour nous, le novice ne vit du mystère de la croix que en recevant Marie dans son mystère de compassion, de l'agonie, de la croix et du sépulcre. C'est comme ça qu'on vit le mystère de la croix. Et on ne peut pas le vivre autrement. Parce qu'autrement, c'est quelque chose qui n'est plus ce qui doit être. Autre question, pourquoi seul le Fils bien-aimé peut-il être prêtre ? Ah, attention, pas seul le Fils bien-aimé. Le sacerdoce a des modalités différentes. Le sacerdoce du Fils bien-aimé, c'est la source de tout sacerdoce. Donc la question n'est pas tout à fait juste. Vous voyez ? Seul le sacerdoce du Fils bien-aimé, c'est-à-dire de Jésus, c'est le sacerdoce par excellence. On ne peut pas penser à un prêtre plus parfait que le mystère du sacerdoce du cœur de Jésus et de l'intelligence et de la prudence et de la sagesse du cœur de Jésus. Parce que c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. J'explique en quelques mots. Le sacerdoce, c'est la médiation dans l'ordre du salut, dans l'ordre de la vie divine. C'est ça le propre du sacerdoce. C'est une médiation dans l'ordre de la vie divine et du salut. Médiation d'amour divin. Médiation de lumière divine. C'est propre du sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est donc une médiation en vue du salut. Et du salut par rapport à notre vie divine. Il faut donc, pour exercer ce sacerdoce de la manière la plus parfaite, il faut être pleinement homme et pleinement Dieu. Or, seul le Fils bien-aimé est parfaitement homme. Jésus est plus humain que nous. Il est plus homme que nous. nous nous sommes toujours un peu moins, à cause des conséquences du péché originel, à cause de nos péchés. Nos péchés nous diminuent dans notre plénitude d'homme. Toutes les fautes nous diminuent dans notre plénitude d'homme. Toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les manques d'amour. Et Jésus, il est le Fils bien-aimé, il est le Verbe, dans sa propre existence. On ne peut pas être plus Dieu qu'en étant le Verbe, le Fils bien-aimé. Donc, il unit de la manière la plus forte qu'il soit, les deux extrêmes de la médiation sacerdotale. Sauver les hommes, pécheurs, il est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et il est un avec le Père, in sinu patris, dans l'unité. Et donc, il représente bien le sacerdoce dans ce qu'il y a de plus excellent. Et au point de vue de la finalité, comprenez bien, au point de vue de la finalité, le mystère de l'incarnation, c'est pour qu'il y ait un prêtre qui soit parfaitement prêtre pour les hommes. Et qu'il le soit de la manière la plus parfaite qui soit. Cette médiation sacerdotale, cette médiation de vie divine. Par le mystère de l'incarnation, il peut prendre sur lui, étant l'homme parfait, toute l'iniquité du monde. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous. Et étant Dieu, il peut pénétrer au plus intime du mystère du Père. Il connaît tous les secrets du Père. Donc il peut nous communiquer tous les secrets du Père. Et il peut présenter au Père la misère de tous les hommes. La misère la plus grande de tous les hommes. Et donc en lui, dans son cœur d'homme, il est le prêtre par excellence. Quand je dis dans son cœur d'homme, comprenez que c'est dans son intelligence, pratique, affective, aimante, qu'il est prêtre. Ce n'est pas son intelligence premièrement de la vision béatifique. Celle-là échappe à toutes les souffrances. C'est son intelligence affective. C'est sa prudence humaine qui est comme une sagesse. Le sacerdoce est reçu dans notre intelligence pratique. Le sacerdoce ministériel et le sacerdoce mystique, il est reçu au plus intime de notre volonté, transformé par la grâce, transformé par l'amour. Vous voyez, comprenez bien ça. Le sacerdoce du Christ, source de tout sacerdoce, il est source du sacerdoce royal. Des fidèles, donc de chacun d'entre nous. Source du sacerdoce royal des fidèles, il est source du sacerdoce ministériel. Le sacerdoce ministériel, il est le caractère reçu dans notre intelligence pratique, dit saint Thomas. Je ne discute pas ça maintenant. Donc, le sacerdoce ministériel, tout sacrement donne une grâce propre. Quelle est la grâce propre du sacrement de sacerdoce? C'est d'imprimer au plus intime de notre intelligence pratique. Et notre intelligence pratique est approfondie et purifiée grâce à la vertu de prudence. Et il est purifié grâce à la charité et grâce au don de conseil. Notre intelligence pratique de croyant, de chrétien, ne reçoit le sacerdoce que le chrétien, le sacerdoce ministériel. Notre intelligence pratique est purifiée par notre prudence, la vertu de prudence. La vertu de prudence, chez le croyant, elle est transformée par la charité. La charité est la mère de toutes les vertus. Elle les enveloppe et leur permet d'aller beaucoup plus loin que si elles s'exerçaient uniquement par elles-mêmes. Donc prudence transformée par la charité et dont l'exercice est transformé par le don de conseil. Normalement, celui qui reçoit le sacerdoce, qu'il reçoit dignement. Vous voyez, le jugement pratique exigé pour recevoir le sacerdoce, il faut un jugement prudentiel. L'Église le demande. Il faut un jugement prudentiel. C'est ce jugement prudentiel qui purifie notre intellect pratique, notre intelligence pratique, et permet à notre intelligence pratique d'aller plus loin, puisque ça purifie notre intelligence pratique. Ça lui permet d'être plus elle-même. Cette intelligence, cette vertu, prudence, est transformée par la charité et l'exercice transformé par le don de conseil. Voilà les trois grandes purifications de l'intellect pratique. Et c'est dans l'intellect pratique qu'est reçu ce qu'on appelle le caractère. Le caractère sacerdotal, qui est une puissance dynamis, puissance instrumentale, qui rend capable de poser l'acte de consécration. Puisque c'est ça qui est le caractère, c'est ça qui spécifie le caractère sacerdotal. Le pape l'a dit d'une façon très très précise dans ses lettres du Jeudi Saint. C'est l'Eucharistie qui spécifie le sacerdoce. Mais c'est pas l'enseignement, non. Un laïc peut enseigner la théologie. Dans l'Église orthodoxe, ce sont des laïcs qui enseignent la théologie. C'est pas le prêtre. C'est dans l'Église latine. Mais c'est le prêtre. Et ceci, c'est pour peut-être mieux manifester que le prêtre, c'est celui qui consacre l'Eucharistie. Alors évidemment, la parole de Dieu et l'enseignement disposent les fidèles. Vous êtes purs parce que vous avez entendu ma parole. Jésus dit ça. Et cette parole dans saint Jean est importante. Il y a la purification du lavement des pieds, qui est la purification ultime. Mais c'est pour recevoir cette puissance, cette puissance surnaturelle, divine, instrumentale, en étant dépendance du sacerdoce du Christ, est capable de poser un acte liturgique, l'acte liturgique par excellence de la liturgie chrétienne, qui est la consécration eucharistique. Et le prêtre est pour cela. Voilà ce qui spécifie le prêtre comme tel. Donc vous voyez, c'est reçu dans l'intellect de pratique. Le sacerdoce royal des fidèles, est-ce que c'est un caractère? Non. Ce n'est pas un caractère sacramentel. C'est reçu, je crois, directement à partir de la grâce. La grâce chrétienne. Et il exprime dans la grâce chrétienne une capacité particulière de médiateur. Médiation, donc, de charité, de vie divine. C'est pour ça que la grâce chrétienne qui est reçue dans l'âme spirituelle, s'épanouit en premier lieu par la volonté, par la charité. Et donc, c'est dans la charité, dans la volonté, qu'on va découvrir le mystère du sacerdoce royal des fidèles. Médiation d'amour, médiation de charité fraternelle. Vous êtes responsable en face de Dieu par la charité fraternelle et par cette médiation sacerdotale de tous ceux que vous rencontrez sur votre route. Ils deviennent votre prochain. Le prochain que vous devez sauver par le sacerdoce royal des fidèles. Donc vous voyez, c'est avant tout un mystère d'amour et de charité. Avant tout. Le sacerdoce royal des fidèles. Tandis que le sacerdoce ministériel, c'est un mystère de culte. Un culte d'amour, puisque c'est l'Eucharistie, c'est quand même un culte. Donc c'est l'intelligence. C'est très curieux que les deux participations du sacerdoce, l'une est du côté de l'amour, et la plénitude d'amour, et l'autre est du côté de l'intelligence. Ce qui fait comprendre que le sacerdoce du Christ, on ne peut pas dire que le sacerdoce du Christ, c'est uniquement une question de prudence, que c'est reçu dans l'intelligence pratique du Christ. Non. Une question de sagesse, intelligence et amour. C'est une question de sagesse. Le sacerdoce royal du Christ est donc au niveau de sa sagesse. La sagesse du Christ implique, d'une part, la contemplation, la vision béatifique dans les sommets, et, d'autre part, implique son activité sacerdotale. L'activité sacerdotale du Christ est plus élevé que son jugement pratique. Et comme c'est difficile à préciser, hein. Saint Thomas n'a pas précisé. On doit le faire. Puisque le Concile nous a demandé de mieux comprendre, Vatican II, sacerdoce royal des fidèles et sacerdoce ministériel. Or, nous ne pouvons le comprendre parfaitement qu'en revenant à la source. Et la source, c'est le sacerdoce du Christ. Donc nous devons creuser le mystère du sacerdoce du Christ pour mieux comprendre ce qu'est le sacerdoce ministériel et le sacerdoce royal des fidèles. Nous devons aller plus loin que ne va saint Thomas. Alors vous voyez, c'est par là que vous saisissez que le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Parce que c'est un sacerdoce qui glorifie le Père. Et qui nous sauve. Voilà son activité sacerdotale. Qui est une activité de sagesse. Glorifier le Père et nous sauver. Très proche de la contemplation. Glorifier le Père en reconnaissant que tout vient de lui et que tout a été donné gratuitement. Et vous glorifiez le Père en vous offrant et en offrant tout. Sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est un sacerdoce de gloire et un sacerdoce de salut. C'est un sacerdoce de sagesse. Sacerdoce d'amour et sacerdoce de lumière. C'est de cette manière-là que nous pouvons essayer de comprendre ce qui caractérise le sacerdoce du Fils bien-aimé. Et la grande prière, chapitre 17 dans saint Jean, montre bien le caractère propre de ce sacerdoce d'amour et de lumière. Vous voyez bien ça, j'espère. Moi, vous entrevoyez la profondeur du mystère. C'est ça qui est important. Pas s'arrêter au sacerdoce ministériel. Il faut avoir une vision de sagesse du sacerdoce ministériel. Et pour avoir une vision de sagesse, il faut nécessairement remonter à la source, au sacerdoce du Christ, à sa sagesse. Oui, il y a les deux aspects par lesquels vous comprenez ce sacerdoce ministériel. L'Eucharistie, qui est le fruit, et le sacerdoce du Christ, qui est la source. Et vous retrouvez d'un côté le mystère du sacerdoce du Christ comme prêtre, et de l'autre côté l'Eucharistie, Jésus comme immolé, agneau. Ça, c'est le fruit. Ainsi nous donne Jésus immolé. Donc, comme pain et comme vin, les deux aspects de l'immolation, les deux symbolismes, l'agneau immolé. Ça, c'est le fruit direct du sacerdoce ministériel. Mais nous devons remonter à la source pour découvrir toute la richesse du sacerdoce du Christ qui dépasse infiniment les sacrements. Les sacrements sont une participation. Et le sacerdoce royal des fidèles est plus immédiatement uni au sacerdoce de Christ que le sacerdoce ministériel. Puisque le sacerdoce ministériel est en vue du sacerdoce royal des fidèles. Comprendre petit à petit cela. Vous voyez ? Et le sacerdoce royal des fidèles, je vous l'ai déjà dit, a comme fruit propre la consécration religieuse. Le sacerdoce royal des fidèles a comme fruit propre le fruit, l'achèvement, la consécration religieuse. La consécration religieuse, parce que c'est une consécration totale, la consécration. La consécration religieuse, c'est-à-dire notre âme consacrée à Dieu, mais notre âme en assumant tout notre corps. Oui, c'est quand même très curieux de regarder le fruit du sacerdoce royal des fidèles et le fruit du sacerdoce ministériel, l'Eucharistie et la consécration religieuse. Et ça se tient. Les deux. C'est sûr, il y a un lien très fort entre les deux. Et l'Eucharistie est pour la consécration religieuse. C'est pour permettre que la consécration religieuse aille jusqu'au bout. C'est ça le propre. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Et quelque chose qui est important. Vie divine, puisque l'Eucharistie, c'est pour que nous puissions vivre de notre esprit de virginité, de notre esprit de pauvreté, de notre esprit d'obéissance. C'est le pain des consacrés, en premier lieu. Et c'est ce qui réalise en nous la consécration. Et la consécration religieuse est pour nous la manière de rejoindre la croix du Christ et la sagesse de la croix. Donc, de rejoindre le sacerdoce de Jésus en tant qu'il est un avec l'agneau immolé. Consécration religieuse fait de nous des agneaux immolés en union avec l'agneau immolé qui est Jésus. Et l'agneau immolé ne fait qu'un avec le sacerdoce du Christ, puisque le sacerdoce du Christ est un sacerdoce d'amour. Il faut que le prêtre et la victime ne fassent qu'un, et la victime c'est Jésus lui-même. Et c'est Jésus en tant qu'agneau qui s'immole. Et le sacerdoce du Christ est en vue de l'immolation de la croix. Donc la finalité, le sacerdoce du Christ est en vue. Vous voyez que tout se converge vers la consécration religieuse. Ça montre bien la place de la consécration religieuse. Quand on comprend que le sacerdoce de Jésus s'identifie, le sacerdoce du Christ en exercice, s'identifie avec la victime. Mais il est pour la victime, il est en vue de cet état victimal. L'agneau comme immolé. Et tout s'achève dans ce mystère de l'agneau immolé. Et ce mystère de l'agneau immolé, il est vécu par nous dans la vie religieuse, dans la consécration religieuse. J'espère que vous comprenez bien ça, parce que ça, c'est très important, et ça permet de mieux saisir, voyez, les liens souterrains. Des liens souterrains. Qui existe entre notre vie religieuse, notre consécration religieuse et le sacerdoce. Et en même temps, le sacerdoce. sacerdoce ministériel et en même temps de mieux distinguer les deux. On peut être totalement immolé sans le sacerdoce ministériel. Mais on ne peut pas vivre totalement le sacerdoce ministériel si on n'est pas totalement immolé. L'un commande l'autre. L'agneau immolé, le point de vue, est ce qui commande tout. C'est la grande vision de l'Apocalypse. L'agneau comme immolé. C'est celui qui peut enlever les sceaux. Donc c'est celui qui donne l'intelligence de tout le mystère de la prédestination. Tout le mystère de la prédestination est éclairé par le mystère de l'agneau immolé. Il nous donne le sens de ce que représente ce mystère de la prédestination. Nous sommes prédestinés à être enfants de Dieu, être agneau immolé. Alors cette immolation est sanglante. Cette immolation est non sanglante. Elle est sanglante par le martyr, elle est non sanglante par la vie religieuse. Mais c'est toujours l'immolation qui finalise tout et qui donne la clé de voûte. C'est pour ça que c'est si beau de voir ça dans l'Apocalypse. L'agneau comme immolé. Mais dans l'Apocalypse, première vision, le sacerdoce du Christ, la grande vision qui domine tout, l'agneau comme immolé. C'est à partir des sceaux, des sept sceaux, qu'on peut découvrir que tout le reste prend son intelligibilité. Donc c'est à partir de ce mystère de l'agneau immolé que tout le reste, dans l'ordre de la théologie, de l'économie divine, prend son intelligibilité. Mais je crois que là, il y a quelque chose de très important pour nous à bien saisir. Toujours ces liens secrets de la sagesse de Dieu qui nous sont révélés. Nous n'avons pas le droit de ne pas les comprendre. Il faut bien les comprendre.